إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم محاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس رواه مسلم وعن وابصة بن معبد رضي الله تعالى عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر قلت نعم قال استفتي قلبك البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن d'après النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La vertu est le bon comportement. Quant au péché, c'est ce qui te vient en tête tout en réprouvant que les gens en aient connaissance. » Rapporté par Muslim. Et Wabisa ibn Ma'bad radiyallahu ta'ala anhu a dit « Je vins au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et il me dit « Es-tu venu interroger au sujet de la vertu ?» Je répondis alors oui. Il me dit « Consulte ton cœur. » La vertu est ce dont l'âme et le cœur sont apaisés. Quant au péché, c'est ce qui te vient en tête et te rend perplexe, aussi nombreux soient les avis des gens qui te le permettent. Et l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, il dit, ce hadith nous est rapporté dans les deux mousnades des imams Ahmed et Ad-Darimi d'une bonne chaîne de transmission. Donc comme vous le voyez, al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, il a mentionné ici deux hadiths dont le sens est relativement proche. On va donc lire ces deux hadiths en les expliquant brièvement, puis on énumérera quelques bénéfices que l'on tire de ces deux hadiths. Donc dans le premier hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle d'al-bir, que l'on a traduit ici par la vertu. Et la vertu, c'est un mot qui indique l'abondance du bien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il définit ici la vertu comme étant le bon comportement. Et le bon comportement, comme on l'a vu dans d'autres cours, il englobe deux choses principales. Le bon comportement avec Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que le bon comportement avec les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant au bon comportement avec Allah, c'est que tu te soumettes à ses ordres et que tu délaisses ses interdits tout en étant satisfait de ses jugements. Et que tu ne ressentes aucune gêne quant à l'accomplissement des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et au délaissement des interdits. Ainsi, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala t'ordonne, à titre d'exemple, la prière, l'aumône, le jeûne ou autre parmi les adorations, alors tu acceptes cela avec une poitrine apaisée. Et il fait partie également du bon comportement avec Allah subhanahu wa ta'ala que tu sois satisfait de ses décrets universels. L'homme dans ce bas monde, il n'est pas toujours dans l'aisance. Il n'est pas toujours heureux. Il peut lui arriver des choses qui vont l'attrister. Il peut être touché par certaines épreuves dans sa santé, dans ses biens, dans sa famille, dans sa société ou autre épreuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut lui décréter. Lorsqu'il est touché par ces épreuves, alors il doit faire face à celles-ci avec un bon comportement envers Allah subhanahu wa ta'ala. En accomplissant ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné et en délaissant ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a interdit. Et parmi les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné lors des épreuves, le fait d'y faire face avec endurance. Et parmi les choses qu'il a interdites lors des épreuves, le fait de se révolter et de se plaindre du décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit par la langue, par le cœur ou par les membres, comme en se frappant le visage, en déchirant ses vêtements, ou autre chose qui sont interdites dans notre noble religion. Ceci est donc le bon comportement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Quant au beau comportement avec les gens, on en a déjà parlé brièvement lors de notre étude du 18e hadith, le hadith de Mu'ad, radiyallahu ta'ala anhu. Ittaqillaha haythuma kunt. Crains Allah où que tu sois. Et on avait vu que le bon comportement avec les gens, il se résume en quatre choses principales. La première est de ne pas nuire aux gens. La deuxième est de prodiguer le bien en leur faveur. La troisième est de patienter sur les nuisances que les gens peuvent te causer. Et la quatrième, c'est d'avoir un visage radieux et un visage souriant lorsque tu rencontres tes frères parmi les musulmans. Ceci est donc le bon comportement qui définit la vertu. Donc on voit que c'est quelque chose de général. Tu dois t'acquitter de tes devoirs envers Allah, mais également de tes devoirs envers les gens pour accomplir la vertu dans son sens absolu et avoir un bon comportement. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: quant au péché, ici il va nous définir le péché. Et le péché, c'est le contraire de la vertu. En effet, vous voyez dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, au verset 2 de surat al-Ma'idah, « Wa ta'awanu ala al-birri wa taqwa » et entraidez-vous dans al-birr, la vertu, le bien, et la piété, al-taqwa. « Wa la ta'awanu ala al-ithmi wa al-udwan » et ne vous entraidez pas dans le péché, al-ithm, et la transgression. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici il va nous donner une indication pour reconnaître le péché. Il dit: quant au péché, c'est ce qui te vient en tête, c'est-à-dire une chose qui te passe par la tête, un acte à accomplir, une parole à prononcer, mais tu es hésitant. Tu es dans la confusion quant au fait de prononcer cette parole ou de faire cet acte. Elle te laisse confus, tout en réprouvant que les gens en aient connaissance. C'est-à-dire que cette chose, si tu l'as fait, tu n'aimerais pas que les gens te voient la faire. Pourquoi? Car c'est une chose blâmable. C'est une chose honteuse. Donc c'est pour ça que tu vas hésiter à le faire et que tu réprouves que les gens te voient en train de faire cette action. Donc ceci est une chose qui permet aux croyants de reconnaître le péché. Bien sûr, il faut savoir que cet indice ne peut en profiter que celui qui a un cœur pur, que celui qui a un cœur saint, un cœur attaché à l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est celui-ci qui va être hésitant à commettre un péché. C'est celui-ci qui va avoir honte que les gens l'observent en train d'accomplir une chose blâmable. Car le cœur du croyant, lorsqu'il est imprégné par la lumière de la foi, alors il ne s'apaise qu'à une chose, c'est quoi? Il ne s'apaise qu'à la vérité. Il ne s'apaise qu'à l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il fuit le faux, il le réprouve et il ne l'accepte pas. Tel est le cœur du croyant. Quant aux pervers et aux désobéissants, ceux qui sont sortis de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, ceux dont les cœurs se sont endurcis, ceux dont les cœurs ont été noircis par les péchés, alors ceux-ci ne tiennent pas compte de ces choses-là. Ils ne sont pas gênés à accomplir les péchés devant les gens. Au contraire, il se peut même que ceux-là, ils se vantent de leurs péchés, wal'iyadu billah. Ils se vantent d'avoir accompli tel ou tel péché. Il en est fier, car son cœur a été noirci par la souillure des péchés. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Donc ici, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle n'est pas générale. Elle ne concerne pas toute personne. Mais elle est spécifique à celui qui a un cœur pur, un cœur saint, qui est attaché à l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Celui-ci, lorsque lui vient l'idée de faire un péché, même s'il ne sait pas que c'est un péché, au niveau de la législation, tu vas le trouver hésitant. Il aura de la répulsion à se faire voir en train d'accomplir cette chose. Donc cette phrase que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit dans ce hadith, ce n'est pas une règle générale, mais c'est un indice, une chose qui indique aux croyants pieux et vertueux, que telle ou telle chose est un péché. Dans le deuxième hadith, rapporté par Al-Wabisa, radiyallahu ta'ala anhu, il a dit qu'il est venu au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit: es-tu venu interroger au sujet de la vertu? Il a dit oui, c'est-à-dire oui, je suis venu interroger au sujet de la vertu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il lui a dit: consulte ton cœur. C'est-à-dire, reviens à ton cœur et interroge-le. Qu'est-ce que ressent ton cœur vis-à-vis de cette chose? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a renvoyé à qui ici? Il l'a renvoyé à son cœur. Ensuite, il lui a expliqué pourquoi.
Il lui a dit la vertu,
c'est ce dont l'âme et le cœur sont apaisés.
C'est-à-dire que le cœur, il s'apaise et il est serein quant à l'accomplissement d'un acte qui fait partie de la vertu. Il n'est pas gêné par l'accomplissement de cet acte. Et bien sûr, comme on l'a dit, ceci concerne celui qui a un cœur saint, celui qui a une intention véridique. Quant à celui qui n'est pas apaisé par la vertu, qui n'est pas apaisé par les œuvres de bien, dont le cœur ne s'apaise pas à l'accomplissement des œuvres de bien, alors celui-ci, cela indique que son cœur est malade et qu'il a été souillé par la noirceur des péchés. C'est pour cela que tu le verras, lorsqu'il accomplit certaines œuvres de bien, il est gêné, il est pressé de les terminer. Lorsqu'il prie, il est pressé de terminer la prière. Lorsqu'il vient à la mosquée, il est pressé de sortir. Lorsqu'il lit le Coran, il est gêné, il est pressé de terminer, car il n'est pas apaisé par les œuvres de bien. Donc si tu ressens cela dans ton cœur, cela t'indique la présence d'une maladie dans ton cœur. Cela t'indique la présence de la souillure des péchés dans ton cœur. Et tu dois t'empêcher de te soigner. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de purifier nos cœurs de la souillure des péchés. Donc le croyant, son cœur et son âme, ils sont apaisés quant à la vertu. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, quant au péché, c'est ce qui te vient en tête et rend ton cœur perplexe. Tu ne sais pas si tu dois ou pas l'accomplir. Tu es hésitant. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit une chose très importante. Et il lui a dit, aussi nombreux soient les avis des gens qui le permettent. C'est-à-dire que même si l'ensemble de la société considère cette chose comme bonne, mais que le cœur du croyant n'est pas apaisé face à cela, alors qu'il le délaisse, par crainte que cela fasse partie de l'ithm, des péchés. Il les délaisse pour ce qui apaise son cœur. Ceci est donc une explication concise de ces deux hadiths. On va maintenant énumérer quelques bénéfices que l'on peut tirer de ces hadiths. Premièrement, on tire comme bénéfice de ces hadiths qu'il a été donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam Jawami'ul Kalim. Et comme on l'a vu dans des cours précédents, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prononce une parole très concise, mais qui comprend un sens immense et des bénéfices abondants. Comme dans ce hadith, regardez comment il a défini la vertu. La vertu est le bon comportement. Et on a vu tout ce que le bon comportement comprenait. Et on a abordé cela seulement de façon concise ici. Mais en réalité, ce sujet pourrait être traité en des cours et des cours et de nombreux livres, car c'est un sujet très vaste qui englobe l'ensemble des droits d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'ensemble des droits de ses serviteurs. Le deuxième bénéfice que l'on tire de ce hadith, c'est un encouragement à adopter un bon comportement. Si tu adoptes un bon comportement, tu seras dans la vertu et le bien. En effet, celui qui adopte un bon comportement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et un bon comportement vis-à-vis de ses serviteurs, alors les œuvres qu'il accomplira à l'égard d'Allah ou à l'égard des gens, ce seront des œuvres de bien, incha'Allah ta'ala. Et ici, on pourrait se poser une question. Est-ce que le fait de se mettre en colère pour Allah subhanahu wa ta'ala, cela s'oppose au bon comportement? Par exemple, si une personne est dure avec une autre et la blâme sévèrement parce qu'elle a accompli un péché, est-ce que ceci s'oppose au bon comportement? Et est-ce que ceci s'oppose à la vertu? La réponse est que ceci ne s'oppose pas au bon comportement. Mais au contraire, ceci fait partie du bon comportement. Car ceci fait partie de la bonne orientation, de l'éducation et de la nasiha, la loyauté envers l'ensemble des musulmans. Et ceci est le bon comportement. Et c'est pour cela que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme il est venu dans un hadith rapporté par l'imam muslim, rahimahullah ta'ala, il ne se vengeait jamais pour sa propre personne. Mais si les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala étaient transgressés, alors il était le plus dur des gens. Sallallahu alayhi wa sallam. Le troisième bénéfice que l'on tire de ce hadith, c'est que le croyant qui a un cœur pur et saint, le péché le rendra perplexe même s'il ne sait pas que c'est un péché. Il hésitera à l'accomplir. Et ce d'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quant au péché, c'est ce qui te vient en tête et rend ton cœur perplexe. Donc, le croyant, lorsqu'il fait face à une chose qui le rend perplexe et qui le rend hésitant, et qu'il ne sait pas si cette chose est un péché ou si cela est permis. Alors dans ce cas-là, il doit délaisser cette chose jusqu'à ce qu'en son jugement lui apparaisse. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith de l'Hassan radiyallahu ta'ala anhu, que l'on a déjà vu, le hadith 11, délaisse ce qui t'inspire du doute pour ce qui ne t'en inspire pas. Donc une chose qui t'inspire le doute, tu la délaisses afin de te préserver de tomber dans les péchés. Et de la même manière, tu t'écartes des choses qui sont ambiguës. Car comme on l'a vu dans le hadith de Nu'man radiyallahu ta'ala anhu, le sixième hadith, celui qui tombe dans les choses ambiguës, il tombe dans l'interdit. En effet, il n'est pas à l'abri de tomber dans les choses interdites. Pourquoi ? Car il se laisse aller dans les ambiguïtés. Le quatrième bénéfice que l'on tire de ce hadith, c'est que le croyant, il réprouve le fait que les gens le voient accomplir des péchés. Et ce, d'après la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, tout en réprouvant que les gens en aient connaissance. En effet, le croyant, il n'aime pas que les gens le voient en train d'accomplir des choses qui sont blâmables, des choses qui sont honteuses, des choses qui sont interdites. Au contraire, il s'éloigne de ces choses-là. Quant à l'homme pervers, celui qui a le cœur noirci par les péchés, il n'est pas dérangé par cela. Au contraire, comme on l'a dit, il se peut même qu'il se vante de ses péchés, comme on voit certains pervers aujourd'hui, qui vont accomplir tel et tel péché, puis qui viennent en parler sans vanter. J'ai accompli ceci, j'ai accompli cela, et ainsi de suite. Wallah al-musta'an. Ceci montre à quel point la noirceur des péchés a enveloppé leur cœur, wal'ayadu billah. Donc il fait partie de la pureté du cœur du croyant qu'il réprouve d'être vu en train d'accomplir des péchés. Et qu'il réprouve le fait que les gens aient connaissance de ces péchés. Le cinquième bénéfice que l'on tire de ces hadiths, c'est la permission de revenir à ce que tu ressens dans ton cœur et dans ton âme, à condition que tu fasses partie de ceux dont le cœur et l'âme se tiennent droit sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu fais preuve de droiture, que tu veilles à t'écarter des interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala et à te soumettre aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors il n'y a pas de doute qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il soutient parmi ses serviteurs ceux dont il a connaissance de la véracité de leurs intentions. S'il sait que tu es véridique et que tu souhaites t'écarter du péché et que tu ne souhaites pas accomplir les péchés mais que tu souhaites t'en écarter, alors Allah subhanahu wa ta'ala t'accordera ce bienfait qui est que tu seras hésitant quant à l'accomplissement des péchés et que tu vas t'en écarter. Les péchés, ils vont te rendre mal à l'aise. Tu ne voudras pas les commettre. Et ceci est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accorde à ses serviteurs pieux qui se tiennent droit sur sa religion. Cependant, il faut faire attention ici à ne pas comprendre ce hadith comme l'ont compris certains parmi les groupes égarés, à l'exemple des soufis. Ils ont pris ce hadith comme argument pour dire que ce que l'homme ressent dans son cœur est une preuve religieuse sur laquelle il est permis de se baser. Ils disent car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « consulte ton cœur ». Il dit donc « tout ce dont le cœur approuve l'accomplissement, alors cela fait partie du bien ». Et nous leur répondons que ceci n'est pas possible si ces choses-là s'opposent à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré. Celui dont le cœur est apaisé à l'accomplissement des péchés, est-ce qu'on va lui dire que ce qu'il est en train d'accomplir c'est bien parce que son cœur est apaisé? Celui qui ne ressent aucune gêne à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'on va lui dire que son œuvre est bonne parce qu'il n'est pas gêné à l'accomplir? En aucun cas. On revient tout d'abord aux preuves du livre de la sunnah selon la compréhension des pieux prédécesseurs de la communauté, rahimahumullahu ta'ala. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il a blâmé ce qui instaure dans la religion ce qui n'en fait pas partie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également blâmé cela. En effet, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'a vu dans le hadith de Aïcha radiyallahu ta'ala anha, quiconque instaure dans notre ordre une chose qui n'en fait pas partie, alors cela sera rejeté. Et si cette chose est rejetée, est-ce qu'elle fait partie de la vertu? La réponse est non, sans aucun doute. Si elle est rejetée, elle ne peut pas faire partie des œuvres de bien. Car si elle ferait partie des œuvres de bien, alors elle ne serait pas rejetée. Mais si elle est rejetée, alors c'est que c'est une œuvre de mal. Ce n'est pas une œuvre de bien. Et elle est rejetée par Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc le musulman, il revient à son cœur quant aux choses qui sont douteuses, quant aux choses dont il n'a pas connaissance. Si son cœur est pur, que son cœur est saint, si ces choses sont bonnes, alors il sera apaisé quant à l'accomplissement de ces choses. Mais si ces choses sont mauvaises, alors il sera perplexe, il sera hésitant, il ressentira une gêne à accomplir cette chose, il réprouvera le fait que les gens le voient en train de faire cette chose. Mais la base dans tout ça, c'est que tout ce qui est interdit dans le livre et dans la sunna, alors c'est un péché. Et il doit être délaissé, même si l'âme et le cœur de certains désobéissants ou de certains ignorants s'y apaisent. Donc ce hadith, il est très important de comprendre. Premièrement, qu'il concerne celui dont le cœur est pur, celui dont le cœur est saint et droit sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et deuxièmement, que la base avant cela est ce qui est mentionné dans le livre et dans la sunna. Et tout ce qui s'oppose au livre et à la sunna, cela ne peut pas faire partie de la vertu. Sixièmement, parmi les bénéfices que l'on tire de ce hadith, il y a le fait que la personne, elle ne doit pas se laisser leurrer par une fatwa si elle est hésitante à son sujet. Il se peut qu'une personne, elle interroge un savant ou elle interroge un étudiant en sciences, que celui-ci lui donne un avis, mais qu'elle ne soit pas apaisée par cet avis. Elle est hésitante. Elle est dans la confusion quant à ce sujet. Donc celui qui est dans cette situation, est-ce qu'il lui est permis d'œuvrer par cette fatwa ou alors d'interroger un autre savant? La réponse est qu'il lui est permis. Il lui est plutôt obligatoire d'interroger une autre personne s'il est hésitant quant à la réponse du premier. Car il est important de savoir que la fatwa, elle ne rend pas permis le fait d'accomplir une chose sur laquelle tu hésites. Une chose qui te laisse dans la confusion quant à son accomplissement et par laquelle ton cœur n'est pas apaisé. Mais tu dois chercher plus à ce sujet, t'enquérir, interroger d'autres gens de science, te renseigner à ce sujet afin de connaître le jugement du livre et de la sunna quant à cela. Septièmement, parmi les bénéfices que l'on tire de ce hadith, il y a le fait que la charia, la législation islamique, elle repose sur les preuves du Coran et de la sunna, ainsi que de l'unanimité des savants, et non pas sur ce qui est connu auprès des gens. En effet, il est possible que chez des gens, dans une société, un avis sur la permission d'une chose soit répandu, mais que cette chose-là, elle soit blâmable et interdite d'après les preuves du Coran et de la sunna. Donc la personne, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle revient à ce qu'accomplissent les gens ou elle revient aux preuves du Coran et de la sunna? La réponse, bien sûr, est qu'elle revient aux preuves du Coran et de la sunna. Et il y a en cela une mise en garde contre le suivi aveugle. Il n'est pas permis à la personne de suivre aveuglément un savant lorsqu'il a prononcé un avis qui s'oppose clairement au texte du Coran et de la sunna. Tu as connaissance du jugement d'une chose. Tu sais que telle chose est interdite. Alors tu dois la délaisser. Tu dois t'en écarter. Même si tel ou tel savant a prononcé un avis disant que cette chose est permise. Il ne faut pas penser que le savant, il sera un argument pour toi auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. À partir du moment où il t'est parvenu le verset, où il t'est parvenu le hadith, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit telle ou telle chose, alors il t'incombe de le délaisser, même si le plus noble des savants a considéré cela comme permis. Ce ne sera pas un argument pour toi, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'avoir suivi l'avis de ce savant qui s'est opposé dans sa fatwa au texte du livre et de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ou encore à l'unanimité des gens de science. Mais la charia, elle repose sur les preuves. Cependant, lorsque le savant prononce une fatwa qui est basée sur les preuves du livre de la sunna ou de l'unanimité des gens de science et qu'il a clarifié cela, qu'il a exposé les preuves, alors il ne t'est en aucun cas permis de rejeter sa fatwa, même si tu n'es pas apaisé par celle-ci. Même si tu ressens de la gêne face à celle-ci, mais tu dois plutôt remédier à cela et soigner ton cœur quant au fait de cette gêne que tu ressens face à la clarification de la vérité. En effet, on a déjà vu dans des cours précédents la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il a dit وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَا إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Donc qu'est-ce qu'il nous incombe à nous ? De nous soumettre aux preuves du Coran et de la Sunna, et à l'unanimité des gens de science, et d'être apaisé face à cela, et d'être satisfait par les jugements d'Allah subhanahu wa ta'ala, et les jugements de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans un autre verset, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants tant qu'ils ne te demanderont pas de juger de leurs disputes et qu'ils n'éprouveront aucune gêne pour ce que tu auras décidé et qu'ils se soumettent complètement à ta sentence. Donc si le savant, il a prononcé sa fatwa, se basant sur les preuves du Coran et de la Sunna, ou l'unanimité des gens de science, alors il est obligatoire d'accepter son jugement et il n'est pas permis de le rejeter. Mais s'il a prononcé une parole qui ne repose sur aucune preuve du Coran et de la Sunna, ni aucune parole des compagnons radiallahu ta'ala anhum, ou des pieux prédécesseurs de cette communauté, alors si tu ressens dans ton cœur de la gêne quant à cette fatwa, alors tu reviens à ce que tu ressens dans ton cœur et il t'est permis dans ce cas, comme on l'a dit, d'interroger un autre savant. Enfin, le huitième bénéfice que l'on tire de ce hadith, c'est que l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et les œuvres de bien, elles apportent aux serviteurs croyants le bonheur et l'apaisement dans ce bas monde. Et plus tu vas multiplier les actes de bien et les actes d'obéissance envers Allah subhanahu wa ta'ala, plus tu seras heureux et plus ton cœur sera apaisé. Et inversement, les péchés et les mauvaises actions, elles apportent à la personne le malheur et la confusion. Donc plus la personne va commettre des péchés, plus tu vas la voir anxieuse, plus tu la verras plongée dans la confusion jusqu'à ce que son cœur soit noirci de la noirceur des péchés au point de ne plus distinguer entre le bien et le mal. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Ceci était donc quelques bénéfices que l'on tire de ce hadith. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouté. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khayra.